Vous écoutez France Culture.
7h18. Comme chaque vendredi, bien sûr, le monde selon Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine.
Bonjour.
Alors, l'actualité internationale focalisée, bien sûr, sur ce qu'on appelle sanctions, représailles, relations diplomatiques tendues entre la Russie, les États-Unis et l'Europe. Les dernières dépêches qui tombent montrent qu'il y a, par exemple, tout à l'heure, l'agence Fitch a dégradé la note russe. Fitch dégrade la perspective de la Russie de stable, voilà, à négative, nous dit l'agence Fitch. Et puis donc, sommet européen entièrement focalisé. Les titres de la presse, souvent internationale, disent que la donne change avec cette histoire d'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine.
Ce qui change et ce qui est profondément ébranlé, c'est l'idée que nous, les Européens, et nous, les Occidentaux, nous nous faisons des relations internationales et de la communauté internationale. Mais on a eu souvent l'occasion à ce micro de souligner le décalage, en fait, entre ce que nous pensons, qui est très bien, d'ailleurs, qui est plein de bonnes intentions et fondé sur de bons principes, et la réalité du fonctionnement du monde. Et là, il y a une sorte de décalage frontal, compte tenu de ce qui s'est passé, des événements, de l'enchaînement. Il y a eu beaucoup d'erreurs ou de maladresses ou de provocations occidentales, mais aussi de véritables provocation du côté de Poutine, et puis un jeu cynique et déterminé, assez intelligent de son point de vue. Il a gagné encore 10 à 15% de popularité en Russie. Et après, ce qui me frappe, c'est que dans l'enchaînement auquel nous assistons, chaque dirigeant a un certain intérêt chez lui, en politique intérieure, à être inflexible et donc à avancer. Il n'y a pas de mécanisme de négociation, et on ne voit pas bien de mécanisme de sortie, on ne voit pas bien comment les Européens, les Occidentaux, enfin l'Europe d'un côté, les États-Unis d'autre part, qui adoptent des sanctions plutôt contre des personnes que contre des systèmes. Vous voyez que les Européens ne sont pas décidés à aller tellement au-delà. Et d'ailleurs, ceux qui sont partisans d'une ligne extrêmement dure dans les journaux commencent à critiquer ça, enfin la faiblesse, la division des Européens. Mais il n'empêche que c'est un mécanisme sans négociation, sans sortie.
Et quand on imagine les sanctions ne sont pas une porte de sortie.
Non, elles ne sont pas perpétuelles, donc c'est pour un certain temps. Donc au bout d'un moment, elles tombent et elles ne sont reconduites que si tout le monde est d'accord pour recommencer.
Parce que parfois, ça marche, les sanctions. Sur l'Iran, on peut dire que ça a eu finalement un effet à long terme.
Il n'y a pas tellement de cas. Oui, il y a quelques cas où ça a un effet. Enfin, l'Iran pourra dire que ça a marché si le processus finit par aboutir et que Obama et Rouhani finissent par l'emporter sur les clans en Iran et aux États-Unis et ailleurs qui jouent plutôt l'échec du processus. Mais enfin, il y a beaucoup d'autres exemples. À une époque, le Sénat des États-Unis voulait mettre sous sanction les trois quarts de l'humanité. Et donc ça ne marche pas partout, tout le temps, et qu'il y a une sorte de prétention occidentale extravagante, un peu du bris par rapport. Mais il y a des cas où ça marche, si ça entre dans un processus politique, avec une sortie possible.
Selon vous, on n'est pas dans ce cas-là, forcément.
On n'est pas encore dans ce cas-là. Ça pourrait y contribuer s'il y avait des mécanismes de sortie. Mais le mécanisme de sortie... Je donne un exemple pour montrer à quel point on en est loin. On confond l'inviolabilité des frontières, ça c'est un principe vital, on ne change pas les frontières par la force par rapport au passé, et l'intangibilité, ce qui voudrait dire on ne les change jamais. Ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le principe, puisque par exemple, on a accepté que les Tchèques et les Slovaques se séparent, qu'on ne conteste pas le principe d'un référendum en Écosse ou des choses de ce type, et il y a plein d'autres exemples dans le monde. Mais inviolabilité, ça voudrait dire il y a quand même eu dans ce référendum, même si les habitants de Crimée sont en majorité russes, bon. Il y a quand même eu une série d'irrégularités. D'abord, là, il y a eu trop de présence militaire russe, même si les Russes la contestent. Il y a ceux qui étaient dans la base Sébastopol et ceux qui sont venus même déguisés sans rien pour les reconnaître. Donc on pourrait dire, mais on n'en est pas là, on pourrait dire un jour, en fait, les autorités de Kiev nouvelles pourraient dire « Nous, on ne peut accepter que si c'est fait dans les formes. » Donc, un jour, nouveau référendum, sous contrôle international, avec aucun mouvement de troupes. Aucune intimidation, quel qu'il soit, avec une vraie campagne, observateur de l'OSCE. Et à ce moment-là, la Russie dirait « j'accepte que ça se déroule de cette façon ». Bon, vraisemblablement, ça donnerait le même résultat que des chiffres un peu moins élevés. Peut-être pas de participation, mais sur le rattachement. Mais ça serait une sorte de porte de sortie pour les Occidentaux qui diraient « on le regrette, c'est déplorable, mais on imagine des relations coopératives nouvelles entre l'Ukraine de demain, qui elle-même aurait donné des garanties aux minorités russes, russophones, tatars, etc., et la Crimée indépendante ou rattachée ». vous voyez, je réécris les choses comme si c'était passé dans le respect du droit international. Mais on ne peut pas dire non plus que la façon dont c'est passé est une annexion à l'ancienne par des forces armées et qui n'ont tenu aucun compte des populations. On est entre les deux. Mais j'ai donné cet exemple qui est tout à fait utopique ce matin, hein, pour dire quel est le genre de mécanisme de sortie qu'il faudrait imaginer. Il faudrait y ajouter ce qui a déjà été cité ici, c'est-à-dire donc l'aspect fédéral, garantie des minorités, finlandisation, c'est-à-dire que l'Ukraine de demain est un pont plutôt que entièrement dans un camp. On pourrait imaginer à ce moment-là, dans un grand deal de négociation entre Poutine et les Occidentaux, qu'on reparle des conflits gelés, qui sont en général des résidus de l'ex-URSS, dans lesquels les Russes bloquent en fait des solutions ou agitent les minorités russes. Bon, donc pour le moment, on n'a aucune chance de diriger vers ça. Ça va se stabiliser et s'enquister, sauf si Poutine, qui est dans une phase un peu d'ivresse, comme le pense Merkel, hein, d'ivresse politique, joue la carte des minorités russes prétendument menacées, ce qui n'est pas vrai, mais il y a du mécontentement en même temps. Donc ça, c'est un critère tout à fait fondamental. Si ce n'est pas le cas, ça va se stabiliser et puis s'enliser. Mais je pense qu'en termes de diplomatie, j'espère en Europe, du genre Allemagne, France, Pologne, ça serait intéressant, vous voyez, comment c'est imaginé, comment on sortira par le haut, parce qu'à un moment ou un autre, il faut bien parler, discuter avec la Russie, quels que soient nos sentiments. On ne peut pas être que sentimentaux sur ce point. Et vous voyez, on en est loin encore.
On en est loin, donc bien sûr, à suivre. Qui sait, vendredi prochain, nous observerons ce qui va se passer cette semaine, mais ce sera trop tôt sans doute pour avoir des conclusions définitives. Merci Hubert Vidrine, Le Monde selon Hubert Vidrine, à retrouver, télécharger et réécouter comme chaque vendredi sur franceculture.fr.